Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui, je vous raconte le destin de Fursi, cet esclave réunionnais qui a défié ses maîtres devant la justice au XIXe siècle. Son aventure judiciaire a connu de nombreux coups de théâtre en 26 ans. À part sur l'île de la Réunion, tout le monde a oublié son nom. C'est son histoire, passionnante et pleine de rebondissements, que je vous invite à découvrir aujourd'hui dans un récit en deux parties. Fursi, l'esclave qui a défié ses maîtres. Épisode 1, le fils de l'Indienne. Nous sommes le 22 décembre 1817, sur l'île de la Réunion, anciennement appelée l'île Bourbon. On est au beau milieu du printemps austral, c'est le matin, le ciel est encore rose et doré. Tout est calme, sauf dans la belle maison d'un négociant de Saint-Denis, où on entend des cris. Le maître, Joseph Laurie, est furieux. Il insulte son intendant et le menace de le fouetter. Mais son esclave proteste. Fursi, âgé d'une trentaine d'années, a décidé qu'aujourd'hui, il ne se laisserait pas faire. Il est un homme libre. Laurie le retient illégalement. Le créole furieux se moque de lui. Alors que Laurie lève la main pour battre son esclave, Fursi esquive le coup. Il comprend que s'il attend l'huissier qui viendra signifier son statut d'homme libre à son maître, il finira le visage en sang. Il regarde vers la porte. Il prend sa décision en un quart de seconde. Il ne restera pas une minute de plus dans cette maison. Fursi ne réfléchit plus et court sans s'arrêter jusqu'à la maison de Célérine, une affranchie dont il est amoureux. Pendant ce temps, à Saint-Denis, Joseph Laurie se rend à la justice pour déclarer la fuite de son esclave. Il lui fera payer son audace. Notre histoire commence en Inde, à Chandernagore, au nord de Calcutta, dans les années 1760. Une jeune religieuse, nommée Mademoiselle Dispense, s'est entichée d'une petite indienne prénommée Madeleine. Elle lui apprend à lire, à écrire, et s'apprête à faire d'elle sa demoiselle de compagnie pour la longue traversée qui la ramènera en France. Le canal de Suez n'est pas encore percé. Il faut faire le tour de l'Inde, puis de l'Afrique en bateau à voile. Le voyage durera presque un an et demi. À l'issue de ce long périple, Madeleine pose pour la première fois le pied en France, au port de Lorient. Le climat est très éloigné de celui qui a bercé son enfance. Mademoiselle Dispense lui fait remarquer que, sur le sol de France, il n'y a pas d'esclaves. Et pour cause, l'édit de 1315 de Louis X le Hutin interdit l'esclavage sur le sol du pays. En revanche, il est pratiqué dans les territoires d'outre-mer et les colonies pour que les colons puissent rivaliser économiquement avec les Anglais, les Hollandais et les Portugais. Cette manœuvre servile ne concerne que les Noirs, les Nègres, comme on dit à l'époque. Or, Madeleine est indienne. Elle peut être domestique, mais en aucun cas esclave sur le territoire français. Mademoiselle Dispense aime bien Madeleine, mais de retour dans son pays natal, elle se demande ce qu'elle va pouvoir faire de cet enfant. Dans le port, Mademoiselle Dispense discute avec Madame Routier. La jeune femme, issue d'une riche famille de propriétaires terriens dans les îles du Pacifique, s'apprête à se rendre sur l'île Bourbon alors qu'elle est enceinte. Elle aurait bien besoin d'aide à bord pour la traversée. Alors, Mademoiselle Dispense lui propose d'emmener Madeleine avec elle. Madame Routier se réjouit car cette proposition tombe à pic. Mais avant de confier Madeleine à Madame Routier, Mademoiselle Dispense lui fait promettre une chose. L'indienne ne doit pas être traitée en esclave. Pour qu'il n'y ait pas de méprise, Madame Routier devra l'affranchir en arrivant sur l'île Bourbon. Et Madame Routier le promet. Les propriétaires des colonies sont loin de la France métropolitaine et se croient au-dessus de toutes les lois. Leur domaine est un peu leur royaume. Ils estiment avoir le droit de vie et de mort sur leurs esclaves, même si le code noir de 1685 l'interdit. Après plusieurs mois de voyage, Madeleine découvre l'île de la Réunion, sa végétation luxuriante et ses maisons coloniales dans les grands champs de café, de riz, de manioc, de blé. À peine rentrée chez elle, Madame Routier rompt la promesse faite à Mademoiselle Dispense. Madeleine rejoint son cheptel de 130 esclaves. Pendant ses années de service, Madeleine met au monde 3 enfants dont on ne sait pas trop qui est le père. Elle a en premier un garçon, Maurice. Puis une fille, Constance, qui est affranchie tout de suite après sa naissance parce que son maître est probablement son père. Et enfin, Furcie, qui naît en 1786. Les registres des paroisses de La Réunion permettent de savoir que Furcie a été baptisé car il a 2 esclaves pour parrain et marraine. Mais il n'a pas de nom de famille, car le petit garçon est un esclave et les esclaves peuvent changer de nom au gré des caprices de leur maître. 3 ans plus tard, en 1789, Madame Routier décide d'affranchir Madeleine, âgée d'une 30aine d'années. En revanche, elle ne lui dit pas qu'elle est libre. Et elle ne lui dit pas non plus qu'elle est censée lui verser une rente annuelle. L'acte d'affranchissement se perd dans un tas de papiers et l'Indienne continue à travailler comme si elle était une propriété mobilière de la famille Routier. En 1809, Madame Routier meurt. C'est à ce moment-là que Madeleine découvre qu'elle a été affranchie 20 ans plus tôt et que sa maîtresse ne lui a jamais payé la rente annuelle qu'elle devait lui verser. Joseph Lory, le gendre de Madame Routier, son héritier, lui promet de libérer son fils Furcie d'ici 2 ans si Madeleine renonce aux arriérés de sa pension. Alors, devant notaire, l'Indienne signe un document qui confirme que son fils est la propriété du créole. Madeleine se rend compte trop tard qu'elle a été abusée. En signant cet acte, elle vient de perdre l'argent qui lui était dû et de vendre son fils en tant qu'esclave. Elle meurt de chagrin quelques mois plus tard. Joseph Lory n'a pas beaucoup de considération pour ses esclaves, mais Furcie lui plaît. Il est intelligent et débrouillard, il lui confie donc un rôle d'intendant. À l'automne 1817, Furcie a 31 ans. En mettant de l'ordre dans des papiers, il découvre l'acte d'affranchissement de sa mère. Mais si sa mère n'était pas esclave, alors lui non plus. Et puis, il a entendu parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen signée quelques années plus tôt, en 1789. Tous les hommes naissent désormais libres et égaux en droit. C'est décidé. Grâce à cet acte, il fera reconnaître devant la justice de l'île son statut d'ingénu, c'est-à-dire d'homme né libre. Le 9 novembre, sa sœur Constance dépose une lettre au tribunal de Saint-Denis au sujet de son frère. Le procureur Louis-Gilbert Boucher est perplexe car les esclaves n'ont théoriquement pas le droit de faire appel à la justice. Mais là, l'homme prétend être libre. Boucher n'est pas un propriétaire. C'est un juriste de la métropole envoyé sur l'île Bourbon pour lutter contre la corruption. Il est animé par une haute idée de son métier. Les magistrats de son époque sont aussi très progressistes. Balayer d'un revers de main la requête de Furcie serait donner un motif de mécontentement aux esclaves qui pourraient se révolter. Mais reconnaître son ingénuité créerait un précédent juridique et de nombreux esclaves pourraient profiter de cette jurisprudence. Boucher se mettrait alors les colons à dos. Pour autant, commettre une erreur judiciaire lui serait insupportable. La loi est donc son seul recours. Et aux yeux de la loi, Madeleine est indienne, pas africaine. La justice est claire. Elle n'est pas esclave, même si elle a un acte d'affranchissement datant de 1789. Ses enfants ne sont donc pas esclaves. Fin de l'histoire. Dans la matinée du 22 novembre 1817, un huissier se met en route vers la maison du négrier Joseph Lory pour lui signifier qu'il retient illégalement Furcie en esclavage. À l'annonce de la décision du procureur, Joseph Lory fait un scandale, mais il comprend mieux pourquoi son intendant s'est rebellé le matin même. Le négrier se précipite chez Louis-Gilbert Boucher et exige l'arrestation immédiate de son esclave en fuite. Fursi n'est pas un homme libre, mais un marron, un fuyard. Boucher commence à comprendre que sur l'île Bourbon, la loi de la métropole relative à l'esclavage ne s'applique pas vraiment. Si Fursi est libre, il ne peut pas être un marron. Mais Laurie ne l'entend pas de cette oreille. Menacé par le planteur de se plaindre du magistrat en haut lieu, Boucher fait rechercher Fursi, qui s'est réfugié chez Célérine, et le jette en prison. À la demande de Laurie, on lui passe des chaînes au poignet et au cou pour lui rappeler sa condition d'esclave. La mésaventure de Joseph Laurie remonte aux oreilles de Philippe Desbassins. Le commissaire général ordonnateur, l'un des hauts fonctionnaires de l'île, est l'un des hommes les plus riches de la région. Il est le fils d'Ombeline Desbassins, la matriarche de l'île qui gère seule son domaine et que tout le monde redoute, qu'on soit esclave ou homme blanc. Depuis sa décision le 22 novembre, le procureur Boucher est littéralement harcelé par la bourgeoisie créole. Desbassins fait pression sur lui jusqu'à ce que Fursi soit jugé pour son marronnage. Décembre 1817. Pour la première fois de l'histoire, un esclave entre au tribunal. Le prisonnier Fursi est convoqué au tribunal de Saint-Denis. Il est représenté par un avocat choisi par Desbassins. Pour les Réunionnais, il est né d'une femme esclave et il est en fuite. En attendant que la cour statue sur son cas, Fursi est gardé en prison. Enfin, 3 mois plus tard, le tribunal rend son verdict. Le dénommé Fursi est un esclave fugitif. Joseph Laurie est satisfait, mais il ne demande pas à récupérer son bien. Il le laisse croupir dans sa geôle à Saint-Denis. Au bout de 6 mois, le 26 octobre 1818, on vient l'en sortir. La lumière du jour lui brûle les rétines. On le traîne sur le port. Devant lui, la Clélie se dresse, majestueuse avec sa coque en bois et ses voiles au vent. Le capitaine Flores le fait monter à bord. Mais pas question de respirer l'air marin. Fursi est poussé à fond de cale. Pendant 6 jours, il endure le roulis sans savoir où on l'emmène. Enfin, le bateau accoste. On ouvre la cale. La lumière du soleil s'y engouffre. Fursi plisse les yeux. Un nouvel enfer commence pour lui. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Fursi, l'esclave qui a défié ses maîtres, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.